01 45 24 7000. Mais avant les questions, quelques messages d'admiration qui nous sont parvenus, Bertrand Piccard, et ça fait toujours plaisir évidemment, sur l'appli France Inter ou par mail. Sébastien qui vous dit: je viens de voir le documentaire Solar Impulse, l'impossible tour du monde. Je voulais juste dire à Bertrand Piccard que je l'admire pour sa détermination et son optimisme. Il est de ces gens qui font rêver, donnent de l'espoir pour notre avenir. On en a bien besoin. Yvan, message d'espoir et noblesse de Monsieur Piccard, c'est lui qui devrait se présenter aux élections. Merci pour cette positivité, ma journée sera belle grâce à vous. Voilà, des questions maintenant. Patrick qui nous appelle d'Annecy. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Je m'associe au compliment fait à Bertrand Piccard. La question, en fait, dans le terme énergie propre, hein, non pas que je le conteste, j'ai moi-même une maison avec des panneaux solaires, je récupère l'eau de pluie, c'est le traitement à long terme, finalement, de la production de panneaux solaires de batteries et surtout le recyclage. On voit le problème avec le nucléaire, ce sont surtout les déchets, finalement, qui posent problème après. Donc, quelle est la vision de Bertrand Piccard par rapport à ça ? Merci et bravo pour vos émissions.
Merci à vous, Patrick. Bertrand Piccard.
Oui, merci pour vos mots chaleureux. Au niveau protection de l'environnement et énergie, je crois qu'il y a vraiment deux piliers. Un pilier, c'est les énergies renouvelables, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'il faut aussi, c'est l'efficience énergétique, c'est-à-dire toutes les technologies qui permettent d'économiser de l'énergie, qui permettent de la stocker, qui permettent de la répartir sur la journée pour éviter les pics de consommation.
Améliorer le rendement.
Et améliorer le rendement. Aujourd'hui, la moitié de l'énergie qu'on utilise est gaspillée parce qu'on a des vieux systèmes, des moteurs à combustion, des maisons mal isolées, des systèmes de chauffage archaïques, des réseaux de distribution qui datent d'un siècle, etc. Donc il faut vraiment travailler sur les deux. Les panneaux solaires, ce qu'on voit, c'est que on n'est pas du tout encore dans le moment du recyclage parce que ça tient beaucoup plus longtemps que ce qu'on croit.
Combien de temps ?
Les panneaux qui ont été installés dans les années 80 marchent toujours. Alors c'est vrai qu'ils sont pas avec le degré de rendement des panneaux actuels, mais ils fonctionnent toujours, ce qui est quand même intéressant.
Mais leur recyclage, le recyclage des panneaux photovoltaïques est quasiment impossible aujourd'hui.
Tout ce qu'on produit fabrique des déchets, c'est sûr. Mais sur les panneaux solaires, c'est pas le problème principal. La grosse question, elle concerne les batteries. Alors évidemment, si vous mettez des batteries dans des voitures et puis qu'ensuite, dès qu'elles ont perdu 20% de densité énergétique ou de capacité, vous les recyclez, là, c'est une catastrophe. Ce qu'il faut, c'est utiliser les vieilles batteries de voiture pour les mettre dans des caves de maison, pour stocker de l'énergie pour les maisons. Ou alors passer à l'hydrogène. On voit ce que fait Air Liquide, on voit ce que fait Engie. C'est une transition énergétique qui va permettre, avec de l'hydrogène, de faire marcher des voitures, de faire marcher des maisons. Et on voit que la progression est extrêmement rapide. Il y a énormément de solutions. Et de toute façon, dans ces énergies propres, on a des déchets moins polluants qu'avec du pétrole ou avec du nucléaire.
Alors justement, des questions d'auditeurs sur la façon de faire voler des avions autrement que par des moteurs à kérosène. Gérard de l'Aude qui vous demande: est-il possible de construire des avions électriques pour transporter 500 personnes? Quel temps faudrait-il pour traverser l'Atlantique? Et puis vous avez aussi cette question que j'ai vue il y a un instant, Mathieu des Landes qui vous demande: que pensez-vous de la solution des piles à combustible pour l'aviation civile et commerciale? Alors le solaire, la pile
Alors,
à combustible...
500 personnes dans un avion transatlantique électrique, on n'y est pas encore. Mais ce serait idiot de dire qu'on n'y arrivera jamais. Le premier ordinateur avait la taille d'une maison. Et aujourd'hui, on en a tous un dans la poche, branché avec notre téléphone. Donc on voit bien que les progrès sont fantastiques. Moi, ce que je promets, c'est que dans 9 ans...
Ah, vous faites des promesses déjà.
Ah oui. 9 ans et 8 mois, on aura 50 personnes dans des avions électriques moyens à court courrier. Et je suis aussi précis parce que ça fait 4 mois que je dis dans 10 ans. Donc le compte à rebours a commencé. Maintenant, les avions transatlantiques...
Répétez-nous cela, 50 personnes...
50 personnes dans des avions totalement électrique, pour du court ou moyen courrier, donc entre 500 km et 1200, 1500 km, purement électrique, mais alors branché au sol. Comprenez, Solar Impulse, c'est un avion électrique qui produit sa propre électricité avec le soleil. Ça, on n'y est pas encore pour des avions de passagers.
Alors là,
par contre, les brancher au sol donc, sur le secteur pour charger les batteries, ça,
donc des batteries avec des batteries. Donc ça veut dire des gros progrès sur le poids, la taille des batteries pour avoir l'énergie suffisante.
Oui, des progrès, mais aussi le fait que l'électricité est tellement plus efficiente que le moteur à combustion permet d'avoir des avions beaucoup plus légers, des moteurs avec une efficience accrue, beaucoup moins de pertes. verte, etc. Et puis alors, une partie de la question, c'était les piles à combustible. Je pense qu'on y arrivera aussi. C'est une très bonne manière. Maintenant, il y a une compétition entre les batteries et les piles à combustible qui marchent à hydrogène. On verra qui gagnera. Pour l'instant, Air Liquide est extrêmement branché sur la propagation de l'hydrogène. Et devant mon hôtel ce matin, il y avait un taxi Hyundai avec écrit en grand voiture à hydrogène.
Oui, mais je crois qu'il y a quelque chose.
Ça commence à Paris, donc c'est bon signe.
Je crois qu'il n'y en a qu'un seul.
Non, il y en a 12.
À Paris ?
Il y en a 12 à Paris.
Ah, il y en a 12 à Paris.
Non, ça commence. C'est ça qui est intéressant.
Ça commence. Alors, avec nous aussi, Sophie Bécherel, qui a évidemment suivi de très près l'aventure Solar Impulse et qui suit les questions scientifiques ici à la rédaction de France Inter. Sophie.
Oui, je voulais vous demander, de tous les pays que vous avez traversés ou avec lesquels vous avez été en contact, lesquels vous semblent les plus déterminés à prendre cette voie des énergies propres ? Et surtout, est-ce que ce sera de la société civile ou des gouvernements que l'impulsion majeure viendra ?
Autrefois, c'était des gouvernements et l'industrie ne suivait pas. Aujourd'hui, l'industrie a dépassé les gouvernements. C'est l'industrie qui veut un cadre légal qui les encourage à investir dans la direction des énergies renouvelables et de l'efficience énergétique. C'est très intéressant. Et les pays où il y a le plus d'évolution, c'est les pays scandinaves.
Et
Danemark,
vous n'êtes pourtant pas
Suède.
Partie d'un pays scandinave et Solar Impulse n'est pas passé
Non, mais il y a beaucoup d'intérêt là-bas parce que c'est rentable. Le Maroc, le roi du Maroc a défini qu'en 2030, il y aurait 52% d'énergie renouvelable dans le pays. C'est fantastique comme vision. Et puis, la Chine est en train de prendre le lead des grands pays dans l'implémentation des énergies renouvelables et des technologies propres. Et c'est intéressant parce qu'au moment où le président Trump a dit qu'il allait se retirer du processus du protocole de Paris, les Chinois ont dit il faut surtout pas se retirer, il faut y aller à fond, il faut investir massivement parce que c'est pas que les changements climatiques, c'est aussi la pollution de l'air. Et maintenant, les Chinois ont compris qu'il y a une industrie et un marché fantastique dans les technologies propres et que c'est là qu'il faut investir, c'est ça qui est rentable.
Vous qui aimez dire que les obstacles constituent des défis, comment retourner le président Trump, ce climato-sceptique ?
Je pense qu'il faut montrer qu'aujourd'hui le but c'est pas d'être écologique, le but c'est d'être logique. C'est-à-dire qu'il faut remplacer toutes les vieilles technologies polluantes par des nouvelles technologies propres qui sont plus rentables, qui créent des emplois et qui créent de la croissance. Il vaut mieux aujourd'hui une croissance propre qu'un statu quo sale, même financièrement.
Et donc, alors, vous pensez convaincre le président ?
Moi, je pense que vous pouvez très bien arrêter de mettre l'environnement au premier plan pour mettre l'économie, la finance et l'industrie au premier plan. Et si on utilise les technologies propres, l'environnement sera gagnant.
Alors, des questions encore sur la façon de transporter des gens dans les airs, puisque vous avez fait des tours du monde en ballon, Bertrand Piccard. François de Metz vous fait remarquer que les dirigeables, eux, peuvent transporter beaucoup de monde. Et Jean complète la question, Jean d'Angoulême. Pensez-vous qu'un ballon dirigeable avec des moteurs électriques serait envisageable comme transport pour l'avenir ?
Alors, tout au début de Solar Impulse, je pensais que le premier stade, ce serait un dirigeable pour faire le tour du monde, un dirigeable solaire, et que l'avion viendrait en deuxième lieu. Et on a vu que finalement, il valait mieux construire directement l'avion, parce que le dirigeable a une telle résistance à l'air que les batteries auraient été vides avant le lever de soleil et qu'on n'arrivait pas à passer la nuit en vol. Mais si vous voulez uniquement avoir une grande surface sur un dirigeable pour voler de jour, on peut très bien. Le problème, c'est que c'est des prix très importants et que pour l'instant, ça n'a pas encore été résolu. Mais moi, je suis pas quelqu'un qui dit que quoi que ce soit est impossible. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est étudier, puis voir à quel moment ça deviendra possible.
Et est-ce que je dis une bêtise si je vous dis que les dirigeables ont toujours volé à petite vitesse, que ce sont des moyens de transport assez
lents ? Mais c'est encore pire, parce que si vous êtes à petite vitesse, dès qu'il y a du vent, vous reculez, vous dérivez, vous n'arrivez pas à manier votre immense, c'est un paquebot aérien. Donc je dirais que pour le loisir, ça a toujours bien marché. Pour le transport, dès qu'il y a eu des avions transatlantiques, les dirigeables ont été remplacés par des avions. Donc je pense que maintenant, je vois qu'il y a beaucoup d'intérêt des lecteurs, des auditeurs sur l'aviation du futur.
Oui.
Je crois qu'il faut vraiment rappeler que l'aviation consomme 3% de l'énergie de l'humanité. 3%. C'est vraiment pas beaucoup. Et il faut mettre maintenant, avant l'aviation, il faut mettre le poids sur tout ce qui est mobilité terrestre et tout ce qui est habitat, tout ce qui est construction. C'est là qu'on a 50% du gaspillage de l'énergie dans le monde. Donc, toutes les technologies de Solar Impulse, elles commencent à être utilisées au sol. moteur électrique, batterie, encapsulation de panneaux solaires, matériaux d'isolation, ampoules LED, digitalisation de la distribution énergétique. Tout ça, ça peut être appliqué partout. Et ça, on l'explique beaucoup dans notre livre Objectif Soleil. C'est comment, sur la base d'une technologie qui existe, on arrive à l'utiliser dans des totalement nouveaux domaines. Alors, quand on le fait dans un avion solaire, les gens tout à coup se disent « Ah, bah alors ça doit marcher ». Et c'est ça le but, convaincre que ça peut marcher.
Une dernière question de Philippe qui nous appelle de Lorient. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour à tous.
Nous vous écoutons.
Voilà, j'aurais aimé demander à M. Picard s'il pensait qu'il pourrait être utile, qu'il s'engage personnellement en politique pour promouvoir ses idées.
Alors écoutez, bien sûr que c'est utile de promouvoir des idées qui sont positives, qui sont pas de l'écologie dogmatique. On n'a pas besoin de Khmer vert. Ce qu'il nous faut, c'est montrer que l'écologie et l'économie maintenant peuvent s'allier. Que protéger l'environnement, ça peut être rentable. Alors, faites de la politique, mais faites très attention dès que vous entrez dans un parti. Parce qu'il y a un tel clivage gauche-droite aujourd'hui que dès que vous êtes à gauche et que vous dites quelque chose d'intelligent, la droite vous démolit. Et quand vous êtes à droite et que vous dites quelque chose d'intelligent, la gauche vous démolit. Donc, c'est important de voir que maintenant, les grands programmes écologiques doivent être transpartis, transdisciplinaires. Ça doit en même temps valoriser l'industrie et la création d'emplois et le profit, et en même temps protéger l'environnement et accroître la paix sociale. Vous savez, l'énergie solaire aujourd'hui, c'est une manière d'acquérir une paix sociale, d'acquérir une richesse nationale, d'éviter des guerres, d'éviter des conflits. Chacun produit son énergie sur place, l'utilise et on fait profiter les autres. Donc oui, c'est un programme politique aussi, et chaque fois que vous pouvez en parler et convaincre des candidats à quelque élection que ce soit, faites-le, c'est fondamental, et les médias, je trouve, le font bien, et ça c'est formidable. Alors je ne suis pas comme Trump qui me plaint des médias, je trouve que dans les médias, on entend beaucoup maintenant parler de ces technologies propres et de ces énergies renouvelables. Heureusement, pourvu que les candidats aux élections, ils prennent de la graine.
Bertrand Picard, vous restez avec nous, on va accueillir Augustin Trapenard dans un instant et retrouver François Morel, évidemment.
C'est vendredi, ce soir vous dînez chez les Martins. Pendant tout le repas, leur fils Adrien va vous appeler « Monsieur Patate ». Sauvez la soirée. Apportez des chocolats Jeff de Bruges, fondants, onctueux, raffinés. Faites-le pour eux et faites-le aussi pour vous. Jeff de Bruges, le plaisir partagé à partir de 10,70€ le ballotin.
Pour votre santé, bougez plus.
9h-5, bonjour Augustin Trapenard.
Salut Patrick.
Vous avez une question pour notre invité.
Oui, bonjour Bertrand Picard. À quoi est-ce qu'on reconnaît un aventurier, ses yeux qui brillent, à son enthousiasme communicatif. Ici, je me suis demandé ce matin si vous aviez été nourri, petit ou même plus tard, par un roman, par un film d'aventure, par une fiction peut-être. Parce que quand on vous entend, on entend le rêve et la croyance dans la fiction. Si vous étiez guidé par un mythe des grandes explorations, par une quelconque fiction. Alors oui, j'ai lu beaucoup de livres sur la conquête spatiale, la conquête de l'air, mais la grande différence, c'est que j'ai eu la chance de rencontrer tous les acteurs personnellement.
Et voilà.
Tous les astronautes.
À la maison, l'aventure.
La fiction. Donc, pour moi, j'avais plus de clivage entre le rêve et la réalité. Je rêvais dans des livres et le lendemain, je rencontrais les pilotes et les explorateurs, les astronautes dont le livre parlait. Et c'est là que je me suis dit, mais rien n'est impossible, il suffit de le rêver pour pouvoir l'accomplir. Et ça a complètement changé ma vision du monde et de la vie.
Une rencontre qui vous a marqué, un personnage, un héros dont vous vous souvenez particulièrement.
Bon, Jacques Mayol, le grand bleu qui a passé 2 semaines chez nous et on allait plonger ensemble quand j'avais 10 ans. Werner von Braun, qui était le patron du programme spatial américain, qui m'a amené avec son fils sur le pas de tir de Apollo 11, le jour du décollage pour la Lune. Et je voyais quelqu'un qui avait passé sa vie à essayer de conquérir la Lune et qui, au moment où son rêve se réalisait, s'occupait d'un petit gamin de 11 ans que j'étais, simplement parce que c'était un ami de mon père. Et là, je me suis dit, mais c'est quand même extraordinaire. C'est ça l'aventure, c'est le côté humain. La technologie, c'est le moyen. Mais le but, c'est de partager une passion, c'est d'entrer dans l'inconnu et c'est de montrer à quel point la vie est passionnante quand on l'explore.
Bertrand Picard avec André Borschberg, Objectif Soleil, l'aventure Solar Impulse, ça paraît dans quelques jours chez Stock. Merci à vous Bertrand Picard.
Merci Patrick.